BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici sur BFM Business pour votre émission Focus Retail. Et au programme aujourd'hui, on décrypte le marché du jardinage après le ralentissement connu post-Covid. Comment se porte le secteur? Quels sont les nouveaux relais de croissance? Nous en parlerons avec mon invité, Marc Rossamigno. Il est directeur général délégué de Botanique. Et puis pour le pitch de la start-up cette semaine, une actu de taille dans le secteur des courses à domicile et de la conserve. La tournée fusionne avec Le Fourgon. J'aurai le plaisir de recevoir Juliette Poiret. Elle nous dévoilera l'ambition et surtout les coulisses de cette consolidation entre ces deux acteurs. Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marc Rossamigno. Vous êtes le directeur général délégué de Botanique. À mes côtés, notre expert retail cette semaine, c'est vous, François Valadas. Vous êtes directeur des solutions data de Vusion. Alors aujourd'hui, on parle de Botanique, qui est une chaîne de jardinerie créée en 1995 en Haute-Savoie. Aujourd'hui, vous avez un réseau de 80 jardineries, d'une soixantaine d'animaleries. Alors même si le secteur des jardineries est loin d'être en crise, il est tout de même sous pression. Il a reculé d'1% l'an dernier selon la fédération du secteur. C'est une baisse qui est légère et qui survient après des années fastes pendant le Covid. Comment se porte Botanique?
Botanique se porte bien, Botanique se développe avec une velléité à grandir en France. On a besoin d'étendre notre notoriété nationale, donc d'aller vers l'ouest. C'est ce qu'on est en train de faire puisqu'on vient d'ouvrir 4 jardineries, enfin d'en racheter 4 et d'en ouvrir une 5e depuis le début de l'année.
Alors, on va revenir dans le détail de toutes ces ouvertures. Vous êtes situé plutôt où, vous, en France?
Alors, nous, on est c'est une entreprise familiale, Botanique, née en région de Savoie, pays de Savoie, donc a essaimé en grandissant dans l'Est, hein, autour d'abord Rhône-Alpes, ensuite l'Est, le Nord, le Sud. Donc, on est très présent du Nord au Sud et on commence à être présent quand même à l'Ouest. Hein. On a des points de vente à l'Ouest, mais effectivement, nous sommes des entreprises savoyardes.
Et plutôt dans les zones de périphérie, vous êtes moins présent dans les centres-villes?
Plutôt dans les zones de périphérie urbaine, oui.
Et dans les villes secondaires?
Les grosses villes.
Alors, la période des beaux jours commence, un climat favorable aux achats pour le jardin, mais le pouvoir d'achat reste tout de même en tension. Est-ce que vous avez noté un changement dans les dépenses des Français? Est-ce qu'on consomme de la même manière?
Alors, récemment, pas tant que ça. C'est vrai qu'on a eu une période très faste, vous le disiez, Eva, après le Covid. Hein, beaucoup de télétravail, beaucoup de personnes qui sont restées chez elles, qui avaient envie de jardiner, qui avaient envie de mettre des plantes chez elles. C'était très favorable aux jardineristes, très favorable à Botanique. Et puis ensuite, malgré tout, une crise hein, qu'on connaît tous, et notamment une crise de l'immobilier, qui a un impact sur le commerce de la maison, de la jardinerie. Néanmoins, il y a un gros engouement pour la nature, hein. Oui. Et qui perdure, et c'est ce qui fait que la consommation continue à être bonne malgré tout.
Ça vous a demandé de réorganiser votre offre, ce changement-là?
Surtout, c'est une adaptation au climat qui fait qu'on réorganise notre offre. Parce qu'au-delà de la crise qu'on a pu connaître, j'allais dire géopolitique, inflation qu'on a tous connue, derrière, il y a aussi eu des crises de climat, notamment 2022, hein, qui a beaucoup marqué, hein, avec un été très très chaud, qui ont des conséquences pour les jardins, pour les plantes. Donc on a beaucoup travaillé avec notre jardin de demain, justement, pour aider à la création d'espaces de vie résilients. C'est ce qu'on propose aux consommateurs, à nos clients, pour s'adapter à un climat qui bouge tout autant que tout ce qui peut bouger d'un point de vue géopolitique.
Alors justement, on va revenir, parce que vous avez mis en place un concept justement qui répond à toutes ces problématiques-là. Un point quand même sur l'actualité. Oui. Aujourd'hui, vous avez eu effectivement, il y a 3 ans, ces répercussions de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il y a ce conflit au Moyen-Orient. Les Français font des arbitrages. On a eu des chiffres la semaine passée sur comment est-ce que les Français arbitrent. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans votre panier moyen en ce moment?
Pas spécialement pour l'instant. Après, c'est assez récent, hein. Je dirais pas assez, pas tellement de point de vue récent. Et surtout, nous, c'est la météo qui influe également beaucoup. Donc, c'est difficile à lire. Parce que comme on a un début de saison qui est plutôt favorable en termes de météo, peut-être qu'il y a un petit ralentissement qu'on voit ou qu'on voit peu, parce qu'on a une météo plutôt favorable. Donc, pour l'instant, on note pas de ralentissement majeur, mais on pressent bien des conséquences tout autres, hein, de cette guerre au Moyen-Orient, hein.
Et oui, justement, sur l'énergie, sur les engrais,
sur l'énergie.
L'emballage, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça?
Avant tout sur le transport, parce qu'on vend avant tout des végétaux. Hein, notre métier, c'est d'être spécialiste de la flore et de la faune. Et donc, avant tout, les végétaux, donc les producteurs de végétaux, sont assez tributaires d'énergie, il y a du transport. Le transport est une part importante du coût du végétal. Donc ça, on sent bien, déjà, on a déjà des répercussions du coût du transport du végétal. Et puis, il y a effectivement quelques répercussions sur le plastique. Après, nous, on a pas mal travaillé sur notre offre, hein, une offre durable et engagée. Et on est un peu moins tributaire sur le plastique polypropylène, puisqu'on a déjà travaillé sur des alternatives, notamment plastique recyclé, hein, notamment sur toute la partie peau, hein, puisqu'on a organisé une filière de recyclage de dépôts. Donc on a repris plus de 144 tonnes depuis plusieurs années de pots de consommateurs, de clients qui nous les ont ramenés, qu'on a retransformés en pots éco-citoyens. On a vendu plus de 50 000 pots éco-citoyens. Donc là, on est dans une filière de recyclage, j'allais dire. Donc c'est vrai que quand on a ces alternatives-là au plastique, on ressent moins les effets. Mais malgré tout, on a quand même des produits encore en plastique. Et donc oui, il y aura un effet qu'on ne ressent pas encore aujourd'hui, mais on pense qu'il y aura un effet, bien sûr.
Ce que vous nous citez, c'est ces choses que vous avez mises en place, ça rentre dans votre plan demain, ambition en tout cas 2030, c'est ce qui vous a aussi poussé à mettre au point un nouveau concept qui s'adapte au changement climatique ?
Oui, alors ce qui nous guide, c'est même plus que ça, hein, c'est notre raison d'être. On est société à mission depuis 2021. Notre raison d'être, c'est ensemble retrouver le chemin de la nature. Et on essaie c'est ce qui nous guide d'un point de vue commercial pour emmener le plus grand monde sur le chemin de la nature. Emmener le plus grand monde sur le chemin de la nature par le jardin, par la maison, faire rentrer la nature à l'intérieur de la maison via son animal ou via son alimentation, puisque les jardins botaniques vendent aussi des produits d'alimentation bio depuis de nombreuses années, depuis 2008. Donc, j'allais dire, c'est un ensemble, ce projet, c'est un ensemble.
Et depuis 2008, vous vendez des articles pour les animaux de compagnie, mais vous avez aussi vos animaleries en parallèle. Vous en avez une soixantaine. Ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place très tôt ou c'est récent?
Non, c'est mis en place il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ce sont des animaleries spécialisées. Le botanique, c'est une jardinerie qui abrite 4 secteurs, tandis que les Médor et compagnie ne vendent que des articles pour les animaux.
Donc, oui, c'est. Et bio également?
Pas bio spécifiquement, mais en tout cas qui permettent à l'animal de s'épanouir le plus possible.
Ça, c'est un relais de croissance assez important, hein, le business des animaux de compagnie. On le voit, ça fonctionne plutôt bien. Ça représente quoi sur votre chiffre d'affaires, les animaux de compagnie?
C'est à peu près 20% du chiffre d'affaires du groupe.
François?
Alors justement, par rapport à la concurrence qu'il peut y avoir sur les différents domaines, quelles innovations vous avez mis ou vous allez mettre en place pour faire revenir les clients, pour les fidéliser, comme la carte Club Botanique? Qu'est-ce que vous avez en tête là-dessus?
En fait, la clé pour nous, hein, de notre commerce, au-delà d'une offre durable et engagée dont nous parlions tout à l'heure, c'est la relation. On travaille à une signature relationnelle particulière, et notamment le sujet d'entrer en conversation avec nos clients. D'accord. Moi, je suis convaincu que quand on est des référenceurs qui alignent des produits, en tout cas c'est les distributeurs spécialisés qui se contenteront de faire ce travail dans les années à venir, ne seront plus là dans quelques années. Je suis convaincu que le modèle du commerce spécialisé passe par la relation. En tout cas, chez Botanique, c'est notre conviction profonde. C'est un des piliers de notre raison d'être. Donc, l'entrée en conversation, la pédagogie, chaque client qui échange avec un de nos conseillers doit partir avec en ayant appris quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ça qui crée la fidélisation, au-delà des rémunérations clients qu'on peut faire via des programmes transactionnels qu'on connaît dans les programmes fidélité, que nous avons aussi, hein, mais comme d'autres enseignes d'ailleurs. Mais j'allais dire, pour moi, la transaction n'est pas suffisante.
Et vous arrivez à recruter justement ce personnel très au fait des pratiques de la jardinerie?
On les recrute et puis on les forme. Cette année, on va former 800 personnes sur notre programme qu'on appelle Jardin de demain, donc toute la partie jardin adapté au changement climatique. Donc, on les recrute parce qu'il y a quand même des jeunes qui se forment dans des écoles horticoles, de moins en moins, mais il y en a encore. Et puis, on les forme souvent. Et puis ça se passe à la fois sur le terrain, c'est du compagnonnage, hein, via les équipes historiques. On a des équipes qui sont historiques, engagées, et puis par des programmes de formation qu'on développe.
Mais François a raison, j'appuie sur son point. Qu'est-ce qui fait la différence entre Botanique et tous vos concurrents, Gamme Vert, Jardiland, Truffaut? Il y a aussi la grande distribution qui prend de plus en plus de place sur ce secteur-là. À part la relation client, qu'est-ce qui fait qu'on va chez Botanique?
Le caractère de notre offre durable et engagé, et je vais vous donner quelques exemples. On est la seule enseigne aujourd'hui qui commercialise 95% de nos plants potagers en agriculture biologique, par exemple.
Donc c'est plutôt le bio, la différence sur le bio.
Le bio, ou en tout cas le naturel ou le bio quand on peut le faire, ou le Fleur de France. Aujourd'hui, sur le magasin de Camblane qu'on vient d'ouvrir dans l'agglomération de Bordeaux, on nous propose une fleuristerie que 100% fleurs françaises. Donc aujourd'hui, c'est assez novateur. Hein. Mm-hmm. On connaît les polémiques qui a pu y avoir autour des fleurs importées de loin. Aujourd'hui, par exemple, dans cette jardinerie, on a lancé un concept de fleurs 100% France. On est sûr, si on vient chez Botanique Camblane, de ne trouver que des fleurs de France.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites, c'est intéressant. Effectivement, vous avez rallié cette année 5 nouveaux magasins, dont des jardineries familiales, comme Le Lanne, oui, dans la région de Bordeaux, que je connais tout particulièrement.
On m'a dit que vous connaissiez.
Que j'ai découvert Botanique, oui, comme ça, puisqu'on m'a dit un jour que, effectivement, c'était racheté par Botanique. Ça fait partie de votre nouvelle stratégie de développement, d'aller racheter des jardineries?
Ben, en tout cas, pour emmener le plus grand monde sur le chemin de la nature, c'est notre projet, quel que soit son niveau d'avancement sur le chemin de la nature, il faut être proche des territoires, il faut être proche des zones géographiques. Je vous l'ai dit, notre commerce, c'est un commerce humain, ça passe par nos hommes, par la relation. Pour ce faire, il faut être présent dans les territoires. Je le disais en introduction, nous sommes très présents à l'est, au nord, au sud, pas encore assez à l'ouest. Donc effectivement, ces rachats de jardinerie, ils visent à être présents à Bordeaux, à Lille, puisqu'on a racheté des jardineries à Lille, oui, au printemps.
Mais donc plutôt des rachats que de s'installer de but en blanc.
Alors on le fait, on a ouvert le magasin de Camblane et Ménac au mois de mars, mais aujourd'hui, ouvrir des grandes surfaces en France, c'est compliqué. En tout cas, ça demande un schéma administratif long et compliqué. Et aujourd'hui, y a des jardineries indépendantes qui parfois sont à vendre, c'était le cas de Bordeaux, c'était le cas de Lille. Souvent, ce sont des rencontres humaines, et puis souvent, ce sont des spécialistes du végétal. Donc nous, on s'appuie aussi sur ces compétences-là. En tout cas, c'était le cas chez Le Lanne, que vous connaissez, un vrai spécialiste du végétal, une référence du végétal sur Bordeaux. Hein.
Et dans ces cas-là, vous gardez tous les salariés, vous gardez toute l'offre.
Tous les salariés, et on intègre effectivement une grande partie de l'offre. C'est travailler la patience, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec nos gammes botaniques. Bien sûr qu'on va les amener, les gammes botaniques, mais on ne fait pas, excusez-moi l'expression, un R à Z. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on garde les gammes existantes, mm-hmm, parce que dans ces jardins, il y a des hommes et des femmes qu'on respecte, qu'il faut intégrer, puis il y a des clients qui sont habitués à un certain nombre de produits. On a appris avec le temps, et ça n'a pas toujours été le cas.
D'accord. Alors, il y a un segment qui prend de plus en plus de place aussi chez vous, c'est l'alimentation oui, bio. Vous avez d'ailleurs déployé des corners La Vie Claire, oui, dans certains de vos magasins. Oui. Quelle est l'ambition de ce partenariat avec La Vie Claire?
Alors, cette ambition, elle est née en 2008, puisqu'en 2008, on a commencé à ouvrir ce qu'on appelle des marchés bio dans nos magasins, donc à vendre de l'alimentation bio, pour faire le lien entre la graine et l'assiette, le potager et puis le bien manger. Pourquoi est-ce que ce partenariat avec La Vie Claire aujourd'hui? Aujourd'hui, pour aller plus vite, pour aller plus fort, pour être plus crédible, on s'associe à un partenaire qui a 80 années d'expérience. La Vie Claire, c'est 80 ans, avec des sélections importantes, en tout cas des cahiers des charges très exigeants, un savoir-faire, une marque qui a une notoriété certaine, une entreprise à mission, une société à mission, comme Botanique, des valeurs humaines proches. Donc on s'associe à cette marque connue, justement pour faire perdurer l'histoire du marché bio chez Botanique, mais via La Vie Claire.
D'accord, donc, pas en propre personnellement.
Alors, c'est une franchise. Donc aujourd'hui, on a la franchise La Vie Claire. Ce sont nos équipes qui exploitent. Ce sont nos équipes qui connaissent le bio, puisqu'on a déjà des marchés bio dans nos magasins, mais sous marque La Vie Claire. Donc on a 4 tests aujourd'hui en France. Un des 4e ouvre demain, à Gaillard, près d'Annemasse. Voilà, c'est ça le sens du partenariat avec La Vie Claire.
François.
Et donc, dans ces leviers de croissance, vous avez donc cette diversification, à travers La Vie Claire. C'est l'offre, c'est le panier moyen que vous développez. Et quelle est la place là-dedans du online et du e-commerce?
Alors, ce qu'on veut développer avec La Vie Claire, c'est la notoriété. Parce que notoriété sur l'alimentaire de Botanique, elle n'est pas très élevée. On a une grosse notoriété sur le jardin, sur l'animal, moins sur l'alimentaire. C'est moins logique de rentrer dans une jardinerie pour faire ses courses alimentaires. Donc on voudrait mailler ces deux marques, qui sont deux marques fortes, Botanique et La Vie Claire. Le online, aujourd'hui, c'est évidemment un complément indispensable. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choses à faire. On a des sites internet, botanique.com, medor.com. On a racheté il y a quelques années un site qui s'appelle Aquastore et Aqualight, qui est le leader en France de l'aquariophilie, qui donc fait ma partie intégrante du groupe. Mais l'objectif de tout ça, c'est de mailler le physique et le digital. C'est pour ça que les produits d'Aquastore se retrouvent dans les magasins botaniques. C'est ça le sens du digital. C'est aussi préparer les visites. Aujourd'hui, 60% des visites, nos clients, on l'a mesuré, on leur a posé la question, se font avant sur le site, avant de venir en magasin. Donc les deux doivent être absolument complémentaires. Maintenant, on ne fait pas une course à la vente en ligne effrénée.
Merci beaucoup Marc Rossavigno. Restez avec nous, on passe sans plus attendre au focus de notre expert. Alors François, depuis la crise du Covid, le jardinage est devenu un levier de bien-être, un levier d'engagement aussi pour le consommateur. Qu'est-ce que les Français viennent chercher aujourd'hui dans les jardineries ?
Exactement Eva, c'est pas tellement le marché de la jardinerie qui a changé, c'est les attentes des Français. Vous le disiez, donc ce côté bien-être où on vient chercher eh bien, évidemment une réduction du stress, de la sérénité, du calme et un lien avec la nature, même si on est dans un milieu très très urbain. Et puis en termes d'engagement personnel, eh bien, aujourd'hui 84% des Français disent avoir changé leurs habitudes sur le jardinage du fait du réchauffement climatique. Très concrètement, ça veut dire 61% d'entre eux qui disent qu'ils ont réduit très fortement l'utilisation de produits chimiques dans leur jardinage.
Est-ce que cette transition écologique, elle est réellement possible dans un secteur aussi concurrentiel et sensible au prix aussi, parce qu'on ne parle pas assez du prix?
Et oui, effectivement, c'est le grand écart que doivent faire les jardineries, hein, à la fois gérer l'équation écologique et l'équation économique. Côté écologique, vous en parliez très justement, vous êtes entreprise à mission, Truffaut est certifié Bicorp, et on a, alors pas autant peut-être que chez vous, mais 73% aujourd'hui des jardineries qui proposent des produits label, des fleurs label de France. Donc c'est une progression qui se fait comme en ce sens-là. Et côté économique, il y a une montée des produits à marque distributeur qui est assez forte pour mieux gérer les approvisionnements et le circuit. Il y a le fait de proposer plus de produits durables et le retour du conseil très fort en magasin, comme vous l'évoquiez.
Et le magasin, justement, il a un rôle à jouer dans tout ça?
Complètement. Un peu comme dans tous les domaines, hein. C'est un lieu de vie. Quand on est comme Jardiland à 60% de son chiffre d'affaires entre le vendredi midi et le dimanche soir, on est devenu un lieu de loisirs, un lieu de détente pour le week-end. Et donc, ça a un impact immédiat sur le concept marchand, sur ce qu'on va proposer comme offre diversifiée, comme animation. Et à contrario, quand on va chercher un public très urbain qu'on veut recruter, on va faire un pop-up store comme ça a été fait récemment dans le Marais. Mais dans lequel la logique est la même, on se recentre sur le client et on repense l'expérience magasin pour lui.
Et on fait des expériences, par exemple, le week-end plus, parce qu'on on a toujours été de tout temps hein, en jardinerie le week-end. Donc là, qu'est-ce qui change véritablement?
En fait, c'est, vous le disiez, la diversification de l'offre qui permet aux consommateurs d'avoir, au-delà des produits de jardin qu'ils viennent chercher, toute une gamme de loisirs, de produits pour les enfants aussi, de décoration, de loisirs créatifs qui véritablement répondent à toutes les attentes des Français sur le domaine du loisir du week-end.
Merci beaucoup François. On passe tout de suite au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Juliette Poiré, vous êtes notre invitée sur cette start-up. Vous êtes la cofondatrice de La Tournée, un supermarché en ligne avec une logique de course livrée en vrac et en consigne. Alors vous venez tout juste de vous faire racheter par Le Fourgon, votre principal concurrent. Quelle est l'ambition de cette alliance finalement ?
Nous, ce qu'on veut ensemble, c'est de généraliser un nouveau modèle de consommation pour mettre fin aux déchets plastiques en gros. Et le fléau aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 36 millions de bouteilles plastiques vendues et jetées du coup par jour. Et donc nous, notre ambition, La Tournée comme Le Fourgon, c'est de proposer un modèle de livraison à domicile qui récupère les contenants vides à chaque livraison pour qu'ils soient ensuite lavés et réutilisés. Et ce dont on s'est rendu compte, donc on était chacun sur des zones géographiques différentes, c'est que ensemble, en mutualisant nos efforts, on peut aller beaucoup plus loin et aussi beaucoup plus vite.
Oui, parce que finalement, c'est un petit peu le même fonctionnement que Le Fourgon. On passe commande en ligne, on se fait livrer chez nous. Comment ça se passe pour retourner les contenants consignés?
En fait, vous avez juste à les rendre au livreur à la livraison suivante. Et ensuite, vous allez être recrédité du nombre de contenants et de caisses que vous avez rendus. Donc finalement, c'est pas plus compliqué que de sortir ses poubelles devant chez soi.
Et tout est absolument tout en consigne?
Ouais, exactement. Après, on a aussi des produits qui ne peuvent pas être consignés. Je pense par exemple à des produits comme du papier toilette, par exemple. On va faire attention de les proposer ou des fruits et légumes qui peuvent être dans des sacs en papier craft. Notre but, c'est de les proposer sans plastique à usage unique.
Alors, vous parlez donc de contenants recyclables et aussi recyclés, j'imagine. Quel est le fonctionnement, en fait? C'est Le Fourgon qui prend en charge absolument toute la chaîne de valeur derrière, donc le nettoyage et la remise en circulation?
Ouais, alors on a des partenariats avec des fournisseurs et des marques qui vont soit elles-mêmes prendre en charge en fait le lavage et la réutilisation de leurs contenants, ou alors... notamment sur, on a une marque propre, Le Fourgon. On va passer par des laveurs qui, eux, ont des usines de lavage pour justement laver les contenants et ensuite les remettre en circulation.
Finalement, est-ce que ça coûte plus cher de faire ses courses chez le fourgon que dans un circuit traditionnel, puisque vous dites que la consigne, finalement, ensuite, le prix nous est, enfin, la consigne nous est remboursée. Donc, quelle est la différence avec un supermarché classique ?
Ouais, nous, on essaye de se rapprocher le plus possible des prix du supermarché classique. Le but, c'est vraiment d'être un service accessible à tout le monde. Aujourd'hui, quand on compare un peu un panier type par rapport à un supermarché, en moyenne, on est 1 euro plus cher. Et ça, ça se justifie aussi par... Donc, quand on compare des produits à qualité égale, et ça se justifie aussi par le fait qu'il y a un service, puisque, ben, en fait, en quelques clics, vous êtes livré chez vous gratuitement sur le créneau de votre choix.
Est-ce que vous commencez à trouver qu'il y a un changement dans les mentalités des consommateurs, puisque on l'a vu dans la grande distribution notamment, il y a eu beaucoup d'initiatives de grandes enseignes qui se sont lancées, mais ça a quand même du mal à prendre, et notamment plus sur tout ce qui est bouteilles ou du liquide comme les gels douche ou le miel. Est-ce que vous notez un changement, vous, dans les mentalités ?
Ouais. Nous, ce qu'on voit déjà, c'est que le consommateur a besoin de praticité. Donc, le fait qu'il n'ait pas à aller rendre ses contenants en magasin, mais juste à les rendre au livreur, ça simplifie quand même beaucoup la vie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience chez les consommateurs sur l'impact des déchets, mais aussi de plus en plus sur la santé, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent l'impact néfaste des microplastiques sur la santé humaine. Et donc, nous, il y a de plus en plus de clients et notamment beaucoup des familles qui veulent que leurs enfants arrêtent de manger du plastique finalement. Donc l'argument santé est de plus en plus important aussi. Donc globalement, on voit quand même une tendance de fond chez le consommateur de vouloir améliorer son mode de consommation. Après, encore une fois, il faut qu'on soit compétitif en termes d'offres et de prix par rapport au supermarché.
Alors justement, parlons-en. Vous avez 3000 produits qui sont consignés, plutôt de l'épicerie et des aliments secs. Vous n'avez pas encore de produits frais. Ça, c'est quelque chose que vous étudiez ?
Ouais, alors on en a à Paris, donc anciennement la Tournée. On a des produits de crèmerie et des fruits et légumes. Et en fait, cette offre de frais, on est en train de avec l'intégration de la Tournée dans le fourgon, aussi de l'implémenter ailleurs. Donc on va la lancer dans le Nord notamment. Et ensuite, on va vouloir vraiment la développer partout où on est présent, parce que c'est important de pouvoir trouver tous ces produits du quotidien au même endroit finalement.
Tout à l'heure, vous nous parliez de marque propre, donc c'est-à-dire que les produits que vous vendez, vous vous approvisionnez auprès de producteurs locaux, j'imagine, mais vous commencez aussi à vous approcher de marques un peu plus connues, reconnues. Vous avez lancé un partenariat avec Bonduelle. Est-ce que ces partenariats vont tendre à se développer dans le futur ?
Ouais, complètement. Ce qui est un objectif, c'est d'avoir évidemment une part de produits locaux importants, mais les clients, ils ont aussi, sur certaines unités de besoin d'avoir leur marque préférée. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de se rapprocher aussi des industriels pour avoir ces marques-là en réemploi. Et pour les industriels, c'est hyper important parce qu'il y a des objectifs de développement de la part des emballages réutilisables, qui sont des objectifs ont été déterminés au moment de la loi AGEC. Et pour eux, en fait, on représente un débouché et un moyen, justement, de développer cette partie-là, le réemploi, efficacement.
Alors, Juliette, aujourd'hui, vous avez 100 000 clients. Comment est-ce que vous comptez passer à la vitesse supérieure ? Est-ce que, justement, cette alliance avec le fourgon, ça va vous permettre de passer à la vitesse supérieure, notamment en France et à l'international, peut-être ?
Oui, complètement. Aujourd'hui, on couvre un peu plus de 45% de la population française, donc c'est quelque chose qu'on a envie évidemment de continuer à augmenter en termes de présence géographique. On vient d'annoncer le lancement en Belgique, à Liège, et en Espagne, à Barcelone. Donc clairement, on a une ambition européenne de développer le réemploi en Europe. C'est une tendance de fond, pas que en France. Donc on commence avec ces villes-là en Belgique et en Espagne, et ensuite on va vouloir se développer dans les autres grandes villes, d'abord dans ces pays et ensuite ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un premier objectif de déploiement géographique. Et ensuite, il y a un développement de la gamme, comme on disait, pour vraiment avoir tous les produits du quotidien.
Merci beaucoup, Juliette, d'avoir été avec nous sur ce pitch de la start-up. On passe tout de suite, sans plus attendre, à l'actu de la semaine. Après l'inflation causée par la guerre en Ukraine il y a 3 ans, comment les enseignes font face à cette nouvelle crise au Moyen-Orient pour contourner plus efficacement l'inflation? François, la situation économique n'est pas comparable à ce que nous avons connu en 2022. Mmh. Qu'est-ce qui change ici?
Effectivement, cette guerre au Moyen-Orient intervient dans un contexte où l'économie est déjà sous tension, où le pouvoir d'achat est déjà contraint, où les ménages ont déjà des difficultés installées. J'en veux pour preuve que l'année dernière, 2025, avant cette crise, il y avait déjà 9 millions de Français qui nous disaient qu'ils n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois sur les dépenses de la vie courante. On n'est pas sur les niveaux d'inflation de 2022-2023 à 20-25%, mais on est sur 4 à 5%, et ça suffit, quand on rajoute ça à ce qui s'est passé les années précédentes, à impacter clairement, directement, les dépenses des ménages.
Et quels sont justement les postes de dépenses qui sont les plus touchés?
Alors, il y a deux réponses relativement, je dirais, directes des consommateurs. La surprotection de son argent en renforçant l'épargne, et de l'autre côté, effectivement, réduire les dépenses qui sont considérées comme non essentielles ou des achats qui sont reportables. Malheureusement pour eux, dans des secteurs qui sont déjà un peu en difficulté, le textile, les meubles, la décoration, la high-tech, qui déjà sur le mois de mars ont subi un recul de plus de 2%.
Justement, comment est-ce que les enseignes, elles font face à ça? Elles repensent leur chaîne de valeur?
Toute la chaîne est impactée, donc ça veut dire potentiellement à la fois des changements structurels, où on va réfléchir à relocaliser des approvisionnements plus près de nous, en Europe, en France, donc sécuriser ces chaînes d'approvisionnement, des choses plus tactiques, où on va peut-être diversifier encore plus son parc de fournisseurs, justement pour sécuriser l'approvisionnement. Et puis ça veut dire, sur cette partie tactique, travailler aussi beaucoup plus avec la data pour arriver à optimiser ses stocks, arriver à proposer des assortiments qui soient les plus pertinents possibles, avec toujours, on en revient au premier point de départ, la logique de proposer les prix les plus bas possibles aux Français, en leur laissant quand même un peu de choix pour qu'ils puissent continuer à se faire plaisir sur les catégories où ils le souhaitent.
Merci beaucoup François pour cette expertise. Merci Marc d'avoir été avec nous, directeur général délégué de Botanique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi dans la matinale de BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.